journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des paroles et des actes contre le régime chinois. La WTA, le circuit féminin du tennis, boycotte la Chine pour protester contre le sort de la joueuse Peng Shuai. Quelles qu'en soient les conséquences financières, assume le patron du circuit dans une déclaration qui fera date. Comme un goût amer de retour en arrière, l'événementiel face aux annulations massives des salons, des congrès, des réunions d'entreprise. La cinquième vague de Covid fait déjà de gros dégâts dans le secteur. Et faut-il rendre la vaccination obligatoire? L'Europe se pose la question. L'Autriche va l'appliquer dès le mois de février à l'encontre de ses valeurs depuis des décennies. Cinquième vague, comment faire face? Question sanitaire et politique. Vous la poserez à votre invité, Nicolas.
Oui, aujourd'hui, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, à notre micro avec Léa. Dans une bonne vingtaine de minutes, le standard est ouvert. Vous attend 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, le travail difficile mais indispensable des gendarmes qui tentent d'identifier les 27 noyés de la Manche la semaine dernière. L'hommage d'Emmanuel Macron à son prédécesseur Giscard, disparu il y a un an. La chasse et ses abus. Et puis des baffes dans tous les sens. Ce sont les Romains qui en prennent pour leur grade dans un jeu vidéo Astérix et Obélix, défoulement garanti.
France Inter.
Non, tout ne va pas bien, ça n'est pas parce que Peng Shuai est réapparu dans des vidéos il y a 10 jours que le sort de la joueuse de tennis chinoise n'interroge plus. Est-elle libre de ses mouvements? Peut-elle parler librement? Devant les gros doutes qui subsistent, la WTA, le circuit de tennis féminin, a donc tranché cette nuit et annoncé la suspension des tournois en Chine et à Hong Kong. C'est son patron, Steve Simon, qui a pris la plume. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Florence.
Dans un communiqué cinglant pour le régime.
Ben oui, il y a les paroles et les actes. Beaucoup de soutien pour Peng Shuai depuis qu'elle a accusé un ancien haut dirigeant de son pays d'abus sexuels, des soutiens à travers le monde, dans le tennis, dans le sport et au-delà, manquaient les actes. Et c'est donc le premier concerné qui s'est mouillé. La WTA, le circuit mondial de tennis féminin dans lequel évolue la chinoise, la WTA qui a donc décidé, vous l'avez dit, de suspendre ses tournois en Chine avec effet immédiat par la voix de son président Steve Simon. Il dit ne pas voir comment il pourrait demander aux joueuses de tennis du monde entier de prendre part à des tournois en Chine si Peng Shuai subit des pression et si elle ne peut pas parler librement. Pour cause, Steve Simon lui-même a envoyé 2 mails à la joueuse et a bien senti que ses réponses n'étaient pas que les siennes. Bref, la WTA met les pieds dans le plat.
Une décision à forte valeur symbolique, Xavier, mais pas seulement parce qu'elle a aussi un coût financier.
Oui, le courage a un prix, un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de dollars en termes de droits télé et de partenariats. C'est colossal. La Chine avait quand même accueilli en 2019, avant la pandémie, pas moins de 10 tournois, dont le Masters féminin, la moitié des revenus de la WTA provenait de Chine. Bien entendu, avec le Covid, aucun tournoi n'était prévu là-bas en cette fin d'année et le calendrier 2022 n'a pas encore été publié. Mais en prenant une telle décision, la WTA a intérêt à trouver un plan B car cela peut mettre en péril tout le circuit.
Xavier Monferrand se souvient de la bienveillance du CIO dans cette affaire Peng Shuai chez les hommes du tennis. En tout cas, soutien complet signé Novak Djokovic cette nuit après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe Davis. On n'a pas assez d'informations sur Peng Shuai, dit le Serbe. Sa santé est de la plus haute importance pour le monde du tennis.
France Inter, il est 8h04, plus de 49 000 nouveaux cas de Covid hier. Florence, et 114 décès.
La vague est puissante. Un millier de malades admis à l'hôpital hier, dont plus de 200 réanimations à Colmar et à Mulhouse. Le plan blanc a de nouveau été déclenché dans les hôpitaux, ce qui veut dire que des opérations vont être déprogrammées. Dans ce contexte inquiétant, les rassemblements n'ont plus la cote. On a demandé aux entreprises d'éviter les pots de fin d'année, par exemple. Et le secteur de l'événementiel est le premier frappé. Événement annulé à la chaîne. Kathleen Comte, le cauchemar recommence pour la profession.
Benoît Ramozzi est le délégué général de l'événement association. L'organisation regroupe 93 agences et depuis 2 semaines, les entreprises n'arrêtent pas d'appeler pour annuler leurs événements de fin d'année.
On est à 80% de nos agences membres qui enregistrent des annulations en cascade. Par exemple, j'ai un de mes membres qui a eu 4 événements annulés là, dans l'heure. Hier, c'était une autre agence plus importante qui a enregistré 23 annulations en quelques jours. Tous les événements qui arrivent, décembre, janvier, février, ça s'annule. Psychologiquement, c'est assez dur et on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent sur le secteur.
Même constat pour Aziz Bentaleb. Il gère la société Calixir Traiteur Événementiel qui travaille surtout pour des salons et des congrès. Sur les 25 événements prévus en décembre, 13 sont décommandés. C'est déjà 120 000 euros de perte pour lui. Problème avec la reprise, il avait aussi recommencé à embaucher du personnel.
On a eu un bon mois de septembre. Octobre était moyen, novembre était parfait. Et on a dit, bon ben, on est sur quoi de travail, il a fallu qu'on embauche. Avec les difficultés qu'on rencontre pour embaucher aujourd'hui. On se retrouve dans l'impasse totale. Qu'est-ce qu'on fait? fait que nos salariés. Bah, les questions recommencent qu'on a vécu en 2020.
Pourtant, les deux professionnels l'assurent. Ils mettent tout en place pour que les règles sanitaires soient respectées. Ils rappellent que pour l'heure, le gouvernement n'interdit pas de se rassembler et demande d'ores et déjà des aides à l'État pour faire face aux difficultés financières qui s'annoncent.
Et c'est la question sanitaire du moment. Faut-il obliger les Européens à se vacciner contre le Covid ? La discussion doit avoir lieu, selon la patronne de la Commission européenne Ursula von der Leyen, alors que l'Allemagne y réfléchit sérieusement et que l'Autriche va l'instaurer à partir du mois de février. Deux pays pourtant très attachés, Louise Baudet, à la liberté de choix en matière de vaccination.
Imposer la vaccination à toute la population adulte semble être impensable en Autriche, où il n'existe aucune obligation vaccinale, même pour les enfants. Seule exception, la période nazie, puis la vaccination contre la variole imposée après-guerre par les Alliés. Annoncée en même temps que le confinement général il y a deux semaines, la mesure radicale se veut à la hauteur de la menace. Les soins intensifs sont saturés et le taux de vaccination honteusement bas selon le chancelier autrichien. 67% de la population est vaccinée, presque 10 points de moins qu'en France. Et cette résistance au vaccin est également forte en Allemagne, très attachée à la liberté de choix ainsi qu'aux médecines alternatives. Fin 2019, l'obligation vaccinale contre la rougeole a été adoptée dans la douleur. Une fracture que le futur chancelier Olaf Scholz ne voulait pas réveiller, il a dû s'y résoudre. Au diapason d'ailleurs de l'opinion, seul un tiers des Allemands étaient pour l'obligation vaccinale cet été. Le rapport s'est aujourd'hui inversé.
Quant au variant Omicron, un premier cas a été détecté aux États-Unis hier en Californie. La personne était vaccinée. De retour d'Afrique du Sud, elle souffre de légers symptômes. En France, toujours un seul cas avéré à La Réunion et désormais 13 cas suspects, dont on attend toujours la confirmation par le séquençage.
France Inter, il est 8h08. Donnez un nom aux morts.
27 noyés à identifier après le terrible naufrage de la semaine dernière dans la Manche. Qui était-il ? Hier, le parquet de Paris, chargé de l'enquête, a lancé un appel à tous ceux qui pourraient donner des informations pour aider à ce travail de justice et de dignité. Ceux qui en sont chargés, ce sont les membres de l'unité d'identification des victimes de catastrophes, des gendarmes, Rémi Brancato, plutôt habitué aux attentats ou aux crashs d'avion.
Quelques heures seulement après le naufrage, 16 experts sont arrivés à Calais, tous membres de l'unité d'identification des victimes de catastrophes, dirigée par le colonel Franck Marescal, patron de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.
En deux jours, on a fait la partie, ce qu'on appelle post-mortem, sur les corps eux-mêmes.
Trois prélèvements identifiants sont indispensables, les dents, l'ADN et les empreintes digitales. L'équipe, habituée aux morts nombreux, des attentats ou des catastrophes, compare ensuite à d'autres éléments difficiles après ce naufrage.
Lorsque l'on a un crash d'avion, la liste des passagers est connue. Ici, la liste des victimes était vraiment inconnue.
Alors des familles, des amis se manifestent auprès des associations qui relaient aux gendarmes des éléments antémortem de la vie du défunt.
Certaines nous apportent une pièce d'identité. En prenant contact avec le pays, on peut essayer d'obtenir les empreintes digitales. Mais on va aussi demander aux familles très proches leur ADN. Si on n'a pas ça, on va prendre tout le reste. Certains nous ont dit qu'il y avait un tatouage. Certains nous ont dit qu'il y avait une cicatrice pour constituer les dossiers antémortem.
Certaines familles ne sont pas sûres que leurs proches étaient à bord, un doute à lever. Seule une commission d'identification sous l'autorité du procureur pourra formellement donner un nom aux victimes dans les prochains jours.
Rémi Brancato, 300 euros de plus chaque mois, voilà ce que demandent les retraités qui manifesteront à Paris ce jeudi à l'appel de la CGT et de 8 autres syndicats. Ils dénoncent une perte de 10% de leur pouvoir d'achat depuis 7 ans. Clôture du vote à 14h et résultat théoriquement annoncé une demi-heure plus tard. Barnier, Bertrand, Ciotti, Juvin, Pécresse en lice pour l'investiture LR à la présidentielle. 140 000 adhérents appelés à les départager à 14h30. Il y aura donc un vainqueur ou deux qualifiés pour un second tour ouvert vendredi matin avant une proclamation samedi. Un jeune président réformateur qui devait dépasser les clivages. Il est mort il y a un an, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Hommage lui sera rendu aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg avec un discours d'Emmanuel Macron, à qui on l'a souvent comparé, mais toute ressemblance s'arrête là où commence la réélection, Simon Le Baron, car Emmanuel Macron n'a pas l'intention de louper la marche, comme son prédécesseur en 81.
Les stratèges macronistes n'en finissent plus de mettre leurs troupes en garde. Notre pire ennemi, c'est l'excès de confiance. Giscard lui-même se croyait imbattable à l'automne 80. 35% dans les sondages, deux fois plus que François Mitterrand. Et puis, le vent a tourné. Alors, pour éviter la même mésaventure, son lointain successeur tente de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Leçon numéro 1, contrôlait son ex-premier ministre, Édouard Philippe, dont beaucoup craignaient les ambitions, s'est rangé sous la bannière commune de la majorité quand Jacques Chirac, lui, avait plombé VGE. Numéro 2, surtout ne pas subir la crise. Emmanuel Macron veut faire de la reprise un atout majeur, croissance et création d'emplois, quand Giscard a pris de plein fouet les chocs pétroliers et le chômage de masse. Et enfin, 3, casser l'image arrogante et déconnectée. L'actuel chef de l'État y consacre beaucoup d'énergie, multiplie les déplacements quand son prédécesseur n'a jamais réussi à réduire la distance qui le séparait des Français. Macron, Giscard, même profil, mais destin différent, espère le président.
Emmanuel Macron qui veut relancer la France du nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs, de quoi surchauffer l'enthousiasme des industriels du secteur. On les trouve en ce moment au Salon international du nucléaire civil à Villepinte. Retour en grâce, 10 ans après Fukushima, et euphorie dans les allées, comme l'a constaté Claire Chaudière.
Entre les stands de fabrication de moteurs destinés à des sites nucléaires, de tuyauterie ou de systèmes de filtration d'air, les allées du salon sont denses.
Il y a vraiment un phénomène nucléaire. Toute la filière autour d'EDF est très excitée, je dirais, par tous les projets à venir.
Aymeric Lefebure est venu représenter Néotis, fabricant de tubes en titane. Nombreux sont ceux, dit-il, qui ont senti le vent tourner.
Le nucléaire était quand même un petit peu mal vu, mal noté. Aujourd'hui, on voit des sociétés qui n'étaient pas du tout impliquées dans le nucléaire qui veulent rentrer.
Ensuite, on a des radiamètres.
Deux allées plus loin, une start-up décline sa gamme de radiamètres connectés. Gaël Patton a lancé Ecoop il y a 5 ans dans un contexte très différent.
C'est intéressant de sentir une industrie qui est en renouveau. Et c'est pas une dynamique française, c'est une dynamique qui est vraie à l'échelle mondiale, que ça soit l'Italie, la Corée, etc.
À la tête du groupement des industriels du secteur, 220 000 emplois au total, Cécile Arbouy se veut donc plutôt optimiste.
Les Français ont commencé vraiment à comprendre que le nucléaire n'émettait pas de CO2. Maintenant, euphorie peut-être pas, parce qu'en fait, on attend le détail du programme, combien de réacteurs, quel est le planning.
Tandis qu'à quelques mètres, le stand de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs ne désemplit pas lui non plus, segment qui attire l'Achelin de ses représentants, également énormément d'investissements.
Claire Chaudière, aux États-Unis, la scène est inimaginable. Un homme de 60 ans en fauteuil roulant, abattu de 9 balles dans le dos lundi par un policier en Arizona. Il le soupçonnait d'avoir volé une boîte à outils dans un magasin dont il était vigile, en plus de son emploi dans la police. En France, c'est l'accident de chasse qui a posé le débat de l'interdiction des mercredis et des dimanches. C'était il y a un an dans le Lot. Un jeune homme reçoit une balle perdue dans son jardin. Une pétition ouverte par ses amis a depuis recueilli 120 000 signatures pour interdire la chasse 2 jours par semaine. Julien Morcelli.
Un an après la mort de son amie, Léa est encore sous le choc.
Morgane coupait du bois dans son jardin avec sa tronçonneuse. Il avait un casque orange sur les oreilles. Voilà, il a été tué par un chasseur qui a dit ensuite l'avoir pris pour un sanglier. Le lendemain de la mort de Morgane, il y a un article qui disait que toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Si les règles de sécurité sont respectées et qu'on peut en mourir, il y a un problème.
Mais le risque zéro n'existe pas, répond André Magnier, le président de la Fédération de chasse du Lot.
Il y a toujours quelques chasseurs qui ne sont pas trop dans le moule, mais qu'est-ce qu'on va y faire ? On était quand même à 80 morts il y a 20 ans. L'an dernier, on était à 7.
7 morts, mais combien d'incidents non déclarés ? Lors d'une balade en forêt en Gironde, Charlotte et son compagnon reçoivent des éclats de plomb dans les jambes. Le chasseur tente de minimiser.
Oh là, pardon, je suis désolée. Venez chez moi tout à l'heure, je vous donnerai des bécasses. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans les campagnes, tout le monde se connaît. Du coup, on laisse tomber.
Quant à Franck, parti aux champignons près de Bergerac, il a été frôlé par une balle de chasseur.
Il a pris mon panier à champignons pour un renard. La balle est passée entre mes jambes, mes oreilles sifflées, la tête bourdonnée. Et je lui ai dit qu'il avait failli me flinguer. Et il a pris peur. Il est parti en courant dans le bois.
Franck n'a pas osé parler de sa mauvaise expérience, de peur des représailles.
Parce que je connais bien ce milieu. Mon fils habite là-bas. On ne sait jamais les réactions que peuvent avoir certaines personnes.
Aujourd'hui, il ne s'aventure plus en forêt.
Et l'auteur de la pétition contre les abus de la chasse sera entendu mardi prochain au Sénat dans le cadre d'une mission d'information lancée par les parlementaires. 2 fois moins de TER sur la ligne Lyon-Grenoble dans les 15 prochains jours. La SNCF met en avant des raisons techniques et un manque de personnel dû au Covid. Situation inadmissible, s'indigne le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui ne veut aucun voyageur à quai. Enfin, qui n'a jamais rêvé d'ouvrir la boîte à baf pour martyriser des légionnaires romains sans défense ? C'est le principe d'Astérix et Obélix. baffez-les tous. Jeu vidéo très attendu qui sort aujourd'hui, Sébastien Sabiron, et qui respecte à la lettre l'univers de la BD du Uderzo et Goscinny.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains.
Le début, on le connaît.
Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
À la fin, on imagine un grand banquet et entre les deux,
on traverse des niveaux où il va falloir baffer énormément de Romains.
En route pour l'aventure.
Julien Hubert, producteur du jeu chez l'éditeur Microhits.
C'est assez basique sur le principe. Après, il y a énormément de subtilités. Les vagues d'ennemis, les coups spéciaux qu'on peut utiliser, les enchaînements de coups. Parce qu'à la fois, on peut s'adresser aux fans d'Astérix et à la fois, on s'adresse aussi aux gamers qui adorent ce genre-là, le beat'em up.
Un grand défouloir qui se veut extrêmement fidèle à l'univers d'Uderzo et Goscinny, dans les personnages, les dialogues, mais aussi et surtout les graphismes. Julien Hubert.
On a décidé de ne pas utiliser une technique assistée par ordinateur, mais de faire véritablement une technique d'animation traditionnelle, à la main, comme on peut le faire dans les dessins animés.
Un travail artisanal réalisé par le petit studio français Mister Nuts, sous le patronage attentif de l'ayant droit, les éditions Albert René.
On leur fait valider énormément de choses, comme les animations, les dessins des personnages, et quand on écrit les dialogues, il faut aussi respecter ce qui a été fait dans la BD. Le type d'humour, etc.
Heureusement que ces maisons sont numérotées, on dirait les mêmes.
Une relation permanente qui nous a permis de vraiment coller aux exigences d'une série comme ça.
Seul ou à deux, il vous faudra 6 à 8 heures pour terminer le jeu, une durée de vie honorable pour un beat'em up.
Des baffes et de la bouffe, et on se prend à rêver d'être gaulois, Nicolas.
Exactement, merci. Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et Stéphanie, pour trouver le soleil, direction le sud.
Et oui, car la journée sera effectivement assez ensoleillée du Languedoc-Roussillon à la région PACA, où Mistral et Tramontagne soufflent par rafales de 70 km par heure, voire 100 en cours de journée. Petit bémol tout de même sur la Corse, où la pluie se transforme en neige en montagne. En remontant vers le sud-ouest, Poitou-Charentes et du centre au Pas-de-Calais, en passant par la région parisienne, comme de la Normandie au Pays de la Loire, le ciel sera partagé entre d'assez belles éclaircies et des cumulus inoffensifs. Partout ailleurs, les averses seront plus fréquentes sous un ciel plus nuageux. Elles se transformeront en neige à basse altitude dès 400 mètres sur les Vosges, le Jura et le Massif central, 500 mètres sur les Alpes du Nord et 800 mètres sur les Pyrénées.
Et retour du froid.
C'est ça, les températures au lever du jour seront froides, généralement comprises entre 0 et 5 degrés. Cet après-midi, elles repassent au-dessous des moyennes de saison. Ne comptez pas sur plus de 4 degrés à Verdun et Aurillac, à Clermont-Ferrand, Nevers et Dijon, à peine 6 degrés dans la capitale, comme à Blois ou Montauban, 8 à La Rochelle, Lyon ou Rouen, 9 à Castellane, mais 11 degrés à Brest et 12 à Sainte-Marie-de-la-Mer.
Merci Stéphanie, merci à vous d'être sur France Inter, pardon, je vais y arriver, il est 8h18, géopolitique.